On dit de la Gen Z qu'elle est désengagée, paresseuse, solitaire, accro au réseau. Et si on prouvait le contraire ? Bienvenue dans Jeunes et Cons, l'émission qui part à la rencontre des jeunes qui font bouger la Lorraine. Julie va montrer une autre image de notre génération telle qu'elle la connaît, active, déterminée et combattante.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, dans le studio d'RCN, on accueille Alice. Bonjour Alice.
Bonjour.
Alice, très tôt, tu as été plongée dans le milieu associatif. Dès ton enfance, ta famille t'a transmis les valeurs de solidarité, générosité et de fraternité. Bon, en citant ces idées, je me sens un peu grosse cliché républicaine, mais c'est pas forcément le but. Ce que je cherche aujourd'hui, c'est plutôt de donner une bonne idée de ta personnalité à nos auditeurs. Et donc aujourd'hui, si je t'ai invitée sur le plateau, c'est entre autres pour parler de ton engagement principal, tu es activiste féministe. Je t'ai découverte par le biais du collectif féministe à Nancy, que l'on peut retrouver au nom de @jesuisféministenancy sur Instagram. C'est parti, Alice, c'est en prépa-lettre que tu as commencé à te poser des questions quant à l'égalité homme-femme. Le programme de préparation au concours ne proposait presque aucune œuvre littéraire écrite par des personnalités féminines à travers l'histoire. Tu me disais que l'une des seules autrices étudiées en classe était Madame de Lafayette. Quelles étaient tes réactions à ce moment-là ?
Je pense qu'en fait, ça avait commencé un peu au lycée, quoi. Je pense que beaucoup d'étudiants et d'étudiantes, même au lycée, c'est assez flagrant, en fait, à quel point c'est un peu toujours les mêmes autrices qui reviennent. Sans parler des auteurs ou autrices noires qu'on n'a quasiment jamais, à part Aimé Césaire, quoi. Et donc, oui, c'est un constat qui amène à se poser des questions. Et ce qui est un peu dommage, c'est que si on a envie de s'intéresser à cette littérature-là, qui est mise un peu de côté, on est obligé de trouver des chemins de traverse, quoi. C'est pas quelque chose, c'est pas un savoir. Enfin, c'est un savoir qui, bien sûr, est étudié après dans des niveaux plus élevés dans le cycle universitaire. Mais jusqu'au lycée, ou même voilà, jusqu'en début de prépa, voilà, c'est très androcentré, on va dire.
C'est un livre que je cite hyper souvent. Je ne sais pas si tu connais Virginia Woolf.
Oui.
Elle a écrit Une chambre à soi. Je crois que maintenant la traduction a été modifiée parce que ça représentait
un lieu à soi,
pas. Ouais, voilà, un lieu à soi, ça ne représentait pas assez ce qu'elle voulait transmettre. Et donc, juste pour expliquer rapidement, elle explique grosso modo que les femmes, si elles avaient eu un lieu à soi, elles auraient eu plus le temps d'écrire. Plus le temps de réfléchir, entre guillemets, même si en soi, elles avaient exactement les mêmes qualités que les hommes, etc. Donc toi, tu connais ce livre-là ?
Ouais, oui, bien sûr. Il y a eu un pendant français aussi autour de la sœur de Balzac, puisqu'en fait, l'essai de Virginia Woolf, il part de la sœur de Shakespeare, il me semble.
Ouais, c'est ça.
Et donc, voilà, on a le pendant français. C'est après un peu un constat qui est aussi à relativiser, puisque certes, il y a ces contraintes matérielles qui font que les femmes ou les personnes racisées, etc., ont pu être tenues un peu en dehors de l'écriture. Mais il y a aussi le fait que la littérature telle qu'on l'enseigne, c'est un savoir qui est institutionnalisé, et donc c'est un savoir aussi qui s'inscrit dans le temps, puisque l'histoire littéraire, elle s'est fait un peu a posteriori, quoi. C'est en gros, au 19e siècle, que c'est... qu'on en fait une discipline, on va dire, l'histoire littéraire. Et c'est à ce moment-là qu'on sélectionne aussi le corpus qui va être érigé comme corpus fondamental de la littérature. Moi, je parle en particulier de la littérature française parce que c'est ce que je connais. Mais en fait, c'est des choix qui sont très conscients parce que finalement, si on creuse un peu, il y en a des autrices des siècles précédents, même au Moyen-Âge, etc., qui avaient aussi un succès énorme, en fait, à l'époque. Et c'est ensuite, nous... plus dans la modernité, qui avons fait une sélection de qui on parle et qui on choisit de garder dans ce corpus. Mais en fait, il y a des autrices de théâtre médiéval, il y a des autrices, enfin les précieuses, elles étaient très reconnues aussi en leur temps. Puis en fait, après, on a décidé de les effacer. Donc il y a plusieurs choses qui sont pas mutuellement exclusives, quoi. Donc il y a effectivement ces contraintes matérielles qui font que probablement dans l'histoire, ça a été plus facile pour les hommes d'aller à l'écriture, mais il y a aussi une invisibilisation a posteriori des écrivaines.
Ouais, je me permets juste d'imbriquer un thème un peu plus musicologique. Je ne sais pas si ça, je dis cet adjectif. Mais il n'y a pas longtemps, je suis allée voir un spectacle, un concert à l'Olympia d'Esther Abrami, violoniste. Je ne sais pas si tu la connais. Bon, en gros, elle a fait un album sur justement toutes les compositrices oubliées de l'histoire de la musique. Le fait comme quoi les compositrices, ça existait autant que les compositeurs tout au long de l'histoire. Et en fait, c'est hyper intéressant parce que donc elle part du Moyen-Âge jusqu'au monde contemporain. Et par exemple, elle donnait des exemples de musique au Moyen-Âge, comme tu le disais, comme quoi, toi, tu parlais de l'exemple du théâtre médiéval, pas médical. Ouais, c'est vraiment quelque chose qui est presque censuré, comme tu le disais, depuis la modernité, le 19e siècle, par les hommes blancs, vieux, bah oui. etc.
Sans parler des femmes qui se sont fait voler leur travail, en fait, aussi, ouais. puisque ça arrive aussi beaucoup dans la peinture ou même en littérature, où il y a beaucoup de vols conjugales, notamment, ou autres.
Oui, tout à fait. Et est-ce que les professeurs donc de classe préparatoire au lycée, ils réagissaient par rapport au fait que les programmes étaient essentiellement masculins? Est-ce qu'ils s'en indignaient ou...
Ce qui est un peu paradoxal, c'est qu'il y a la question du genre en littérature maintenant. Maintenant, je pense qu'elle est assez prégnante depuis les études de genre de la littérature. Ça commence à peu près dans les années 80. Je pense que très vite, en fait, c'est des questions qui se posent et dont on ne peut pas se détacher vraiment. Puisque les textes, en fait, mettent en tension les genres, etc. Donc j'ai l'impression que c'est des questions dont on se saisissait pour pouvoir analyser des textes, mais qui ne se posaient pas tellement pour le programme, en fait. Je ne sais pas trop comment expliquer ça. Par exemple, là, je travaille un peu pour le CAPES de lettres de cette année. Et donc, il y a les fabliaux du Moyen-Âge qui sont à étudier dedans. Et qui sont donc des petites histoires qui sont censées être drôles et qui sont en fait hyper misogynes. Enfin voilà. Et le chercheur qui a écrit le manuel pour le CAPES, il écrit que c'est pas si misogyne. Enfin, donc il se saisit de la question du genre, mais d'une façon un peu, je sais pas, qui permet de fermer peut-être. Aussi les yeux sur le fait que là pour le CAPES, il y a 6 œuvres, une seule est faite par une femme et une seule est faite par un homme noir, et sinon c'est que des hommes blancs. Quoi. Donc c'est un peu. Ça questionne, et en même temps, j'ai l'impression qu'il y a vraiment une volonté de se saisir de la question, mais que ça n'impactera pas le choix des œuvres qu'on étudie et qu'on décide d'ériger en panthéon, quoi.
Et à partir du lycée, à partir de la classe préparatoire, toi-même, tu as décidé de te rendre dans les librairies et de choisir des œuvres écrites par des autrices. Quelles sont les œuvres qui t'ont le plus marqué? Quel a été ton processus de réflexion?
Je sais pas s'il y a des œuvres féministes en particulier qui m'ont marquée à ce moment-là de ma formation. Je pense que j'en parlais beaucoup avec mes copines et qu'on se nourrissait plus d'essais, en fait, plutôt que de fiction. Et à ce moment-là, moi, j'étais pas encore vraiment j'étais plutôt dans une idée de décryptage du monde culturel dans lequel j'étais, plutôt que dans une perspective un peu active dans laquelle je suis maintenant. Parce que j'essaye d'aborder un peu mes consommations. On appelle ça le lesbianisme culturel, je sais pas ou lesbianisme politique. C'est en fait faire le choix de ne consommer que du contenu écrit ou fait par des femmes. Moi, c'est ma lecture du génie lesbien d'Alice Coffin, je sais pas si. Tu connais,
non plus.
qui avait fait un peu polémique à sa sortie, je ne sais plus exactement de quand ça date, c'est peut-être 2019 ou 2020. Et c'est un essai, donc elle est journaliste, et c'est un essai dans lequel elle a la volonté vraiment d'être polémique. Hein, donc elle dit des arguments très forts, mais histoire de choquer et de faire parler, et ça a fonctionné. Mais donc son idée à elle, c'est de ne consommer que des contenus faits par des femmes. Pour rééquilibrer en fait le fait que dans sa vie, elle a consommé majoritairement des choses faites par des hommes parce que c'est majoritairement ce qui nous est proposé, et que pour rééquilibrer, elle a décidé de complètement se couper des contenus faits par des hommes. Et moi, j'ai abouti dans ma réflexion à un mode de consommation qui va plus vers ça maintenant. Mais ça m'a pris du temps, et je pense pas que au lycée j'étais encore suffisamment cultivée à ce niveau-là pour adopter ce genre de comportement.
Oui, il y a un essai pareil que j'ai lu il n'y a pas très longtemps. Bon, j'étais un peu en retard parce qu'il a fait beaucoup parler à sa sortie. Je ne me souviens plus de la date. C'est Le coût de la virilité. Je ne sais pas si ça te dit quelque chose.
C'est Olivia Gazalet ou...
Sûrement, je ne me souviens même plus de l'autrice. Mais en gros, elle explique qu'on peut rembourser des milliards d'euros de la dette française, etc. juste si on enlevait les coûts des crimes commis par les hommes, que ce soit les violences sexistes et sexuelles... Pareil, le coût de l'alcool, etc. Donc, tu l'as lu aussi ?
Non, je ne l'ai pas lu.
Okay.
Mais je comprends que ce soit marquant. Enfin, moi, en fait, la plupart des essais féministes que j'ai lus, c'est un électrochoc, quoi. Enfin,
ouais, à chaque fois.
C'est tellement... en fait, ça touche tellement notre... toute notre construction, en fait. Enfin, on parle beaucoup en ce moment de déconstruction, etc. Et je pense que c'est vraiment nécessaire, puisque plus on se cultive, plus on se rend compte à quel point nos imaginaires, ils sont hyper formatés par plein de dynamiques sociales, et notamment les dynamiques qui sont en lien avec le genre. Et c'est assez fou de se rendre compte aussi à quel point collectivement ça impacte nos sociétés.
Et donc à partir du lycée, à partir de l'université, c'est à ce moment-là que tes proches ont commencé, et toi aussi, à sérieusement s'investir dans la lutte pour le féminisme, donc pour les causes qui leur tenaient à cœur, etc. C'est ce qui t'a également motivée, si j'ai bien retenu. Et donc, arrivée en master, tu as décidé de passer un cap, te battre activement pour tes revendications. Comment t'es entrée dans l'activisme ?
Justement, moi, ça faisait plusieurs années du coup que je me cultivais sur ces sujets-là. Et justement, j'étais pas très engagée dans le sens où j'étais pas engagée collectivement dans une action. J'étais vraiment juste du point de vue théorique. Dans la déconstruction personnelle, on va dire. Et j'étais aussi plongée dans des études un peu, qui exigeaient vraiment du travail, donc j'étais un peu focus là-dessus. Et puis après, je me suis dirigée vers un master en recherche, et moi, je travaillais donc sur les questions de genre en littérature. Et c'est à ce moment-là, en fait, que j'ai eu peut-être un peu plus de temps aussi, et que j'ai eu vraiment l'envie d'avoir un activisme beaucoup plus concret en parallèle à tout ce travail théorique que je faisais, sur lequel je travaillais. Et donc à ce moment-là, j'en ai parlé un peu autour de moi, on m'a donné des contacts, tout ça. Donc je me suis un peu renseignée sur le paysage associatif de Nancy, parce que c'est pas forcément simple, en fait, de trouver un collectif ou une asso qui nous plaise, notamment parce que... c'est pas qu'il y a un bon et un mauvais féminisme, mais en fait on n'est pas sûr de trouver ce qu'on cherche en fonction des différentes assos dans lesquelles on peut se rendre, notamment parce qu'il y a j'aime pas parler en termes de branches, puisque je pense qu'il y a une racine commune, mais il y a des degrés d'engagement divers sur diverses questions. Par exemple, pour moi, c'était très important d'aller vers quelque chose d'intersectionnel. Donc, l'intersectionnalité, c'est en fait une branche du féminisme qui s'est développée dans les années 90 et qui... c'est pas une branche du féminisme, en fait, c'est le féminisme tel qu'il existe depuis les années 90 et qui décide de prendre en compte tous les degrés de discrimination. Donc, aller vers du féminisme intersectionnel, c'est se rendre compte que moi je suis une femme blanche, j'ai pas les mêmes discriminations qu'une femme qui est racisée. Je suis une femme cisgenre, donc ce qui signifie que mon genre assigné à la naissance correspond à mon genre. Je subis pas les mêmes discriminations qu'une femme transgenre. Je subis pas les mêmes discriminations qu'une femme qui n'est pas valide, puisque je suis valide. Et c'est se rendre compte un peu de... C'est se rendre compte des oppressions qu'on subit, mais c'est se rendre compte aussi des oppressions que nous, on peut faire subir à d'autres personnes. Et c'est un peu se situer dans le monde, quoi, de façon la plus juste possible. Donc j'étais assez renseignée sur ce sujet-là, et donc moi, c'était très important pour moi d'aller vers un collectif qui s'attarde un peu sur ces questions-là, et sur d'autres questions, l'islamophobie, etc. Et donc voilà, ça fait quelques années qu'il y a des féminismes aussi d'extrême droite qui se développent, donc l'idée c'était d'éviter à tout prix, mais on s'en rend compte assez vite, mais c'était d'éviter ce genre de collectif, association. Et donc voilà, bref, j'ai été à une soirée de pré-inauguration de la Maison des Femmes et j'ai découvert le collectif Je suis féministe qui avait une chorale présente, enfin sa chorale présente le jour-là. Et puis voilà.
Bah, on va justement parler des activités de ce collectif juste après la pause musicale. À tout de suite.
J'ai des frères que j'aime et j'adore aussi mon père. Et j'ai un ami mec, un vrai, qui parle fort et qui a des pecs. Qui se compare devant le miroir, qui fait le kéké dans les bars. C'est vrai qu'ils me font marrer, leurs petites douleurs, leurs grandes idées. Et leurs jambes écartées, comme si on les avait pas remarquées. Assez, et puis leurs sourcils froncés, toujours prêts à se bagarrer,
bagarrer.
Et qui s'empêchent de pleurer. Et moi je préfère les filles, les femmes, les meufs. Moi je me sens plus tranquille quand y'a des filles dans la taf. Je préfère les filles, les femmes, les meufs. Je me sens mieux dans ma vie depuis que j'ai dit que je préfère les filles, les femmes, les meufs. Moi je me sens plus tranquille quand y'a des filles dans la taf. Moi je préfère les filles, les femmes, les meufs. Je me sens mieux dans ma vie depuis que je l'ai dit que j'aime les filles aussi. Et ouais j'ai eu des amoureux, mais j'ai jamais trop su les garder. J'avais des doutes un jour sur deux. J'avoue, je les ai toujours quittés. Ils m'écoutaient jamais parler. Ils m'entendaient jamais pleurer. Je sais pour eux c'est compliqué. Et ouais, cette foutue virilité. Qui tiendra le plus longtemps, qui fera le plus d'argent et qui sera le premier. C'est vrai, parfois j'ai de la peine pour leur petit cœur qui saigne. Mais les filles, elles saignent aussi. Désolée les gars. Et moi je préfère les filles, les femmes, les meufs. Moi je me sens plus tranquille quand y'a des filles dans la taf. Je préfère les filles, les femmes, les meufs. Je me sens mieux dans ma vie depuis que j'ai dit que je préfère les filles, les femmes, les meufs. Je me sens plus tranquille quand y'a des filles dans la taf. Moi je préfère les filles, les femmes, les meufs. Je me sens mieux dans ma vie depuis que je l'ai dit que j'aime les filles aussi.
Jeunes et cons sur RCN, l'émission qui part à la rencontre des jeunes qui font bouger la Lorraine.
Bien sûr, RCN, où j'interview Alice aujourd'hui, active au sein du collectif féministe de Nancy. Juste avant de parler justement de l'activité de ce collectif, tu as parlé tout à l'heure pardon, du féminisme d'extrême droite. Est-ce que tu peux le définir ?
Pour employer des mots très crus, c'est un féminisme en fait plutôt... raciste en fait, qui identifie la menace qui pèserait sur les femmes comme étant plutôt les hommes racisés en fait, et qui se concentrerait donc majoritairement là-dessus et sur basiquement du coup l'obligation de quitter le territoire, quitter le territoire pour les hommes racisés. L'idée, c'est, en tout cas, moi, le féminisme tel que je l'envisage, c'est vraiment plus quelque chose de très systémique, avec le patriarcat qui met en place vraiment tout un système qui nuit aux personnes, aux minorités de genre, aux personnes... aux femmes et aux personnes qui sont non valides, aux personnes racisées, etc. Donc c'est... En tout cas, c'est plus ce féminisme-là que j'ai envie de défendre.
Ben justement, donc tu as rejoint le collectif féministe de Nancy parce que ça correspondait à tes valeurs. Rapidement, c'est quoi le collectif féministe de Nancy ?
C'est pas le seul collectif féministe à Nancy. En tout cas, c'est un collectif qui s'est constitué en asso depuis 2024. C'est un collectif qui a un peu deux gros pôles. Donc, il y a un pôle collectif militant et un pôle chorale militante. Donc, la chorale, moi, j'en fais pas partie, mais je peux en dire un mot rapidement. Donc, elle compte en tout entre 70 et 80 choristes. C'est une chorale qui est en mixité choisie et donc qui accueille des femmes et des minorités de genre, donc a priori sans hommes cisgenres qui fait partie de la chorale. Et puis le pôle militant dans lequel moi je suis majoritairement active, qui porte des projets notamment culturels. En fait, l'idée du collectif, c'est vraiment d'agir sur... De travailler et de proposer au public des événements de sensibilisation sur les questions de genre. Donc des ciné-débats, des apéro-débats, des...
Et donc voilà. Public ouvert à tous à Nancy, si moi j'ai envie de venir sans être adhérente à l'association,
ouais,
je peux venir.
Bien sûr, oui. Bah, on fait ça souvent dans des lieux publics. Là, il y a la Maison des Femmes donc, qui a ouvert en novembre et qu'on investit pas mal.
Et c'est quoi la Maison des Femmes?
Alors moi, la Maison des Femmes, on ne le gère pas. Pour nous, c'est un lieu d'accueil. Donc la Maison des Femmes, c'est un espace qui est rue Charles III et qui propose en fait deux espaces. Donc il y a un accueil d'urgence pour les personnes qui subissent des violences dans leur foyer, qui peuvent être accueillies donc, par un pompier, il me semble, qui est là pour les accueillir et les mettre dans un logement protégé. Et il y a ensuite un espace ouvert au public qui s'appelle l'espace de sensibilisation, il me semble, et que nous, on investit pas mal parce que la Maison des Femmes nous accueille et on les en remercie. Mais c'est un bel espace, en fait, et qui est ouvert au public. Et pareil, on organise pas mal d'événements avec le Goethe Institute. Donc là aussi, c'est ouvert au public. Enfin, l'idée, c'est vraiment d'accueillir tout le monde.
En tout cas, bon, j'ai bien compris que la Maison des Femmes, ce n'était pas quelque chose que vous organisiez, en tout cas directement. Mais rapidement, moi, c'est quelque chose qui me rappelle beaucoup mon stage de troisième que j'ai fait auprès d'une sage-femme. C'était dans une cité de Strasbourg dont je suis d'origine. Et en fait, beaucoup de femmes prétexter auprès de leur mari, auprès de leur compagnon, un problème gynécologique pour se rendre auprès de la sage-femme, auprès d'un gynécologue. Mais en fait, pour dénoncer les violences qu'elles subissaient dans leur foyer. Et c'est vrai que, bon, moi j'étais en troisième, donc c'était un choc, mais enfin, je trouve ça juste fou déjà le nombre de personnes qui subissent aujourd'hui des violences qu'ils n'ont pas forcément écoutées et qui... se rendre vers des professionnels de la santé parce que justement elles ont peur d'être reconnues par leurs compagnons. Enfin, bon. Du coq à l'âne, le collectif féministe, il a une organisation horizontale dont tu es fière, je crois. Pourquoi c'est important pour toi ?
En fait, c'est quelque chose qui est arrivé assez tardivement, entre guillemets, dans la formation du collectif. Moi, j'étais pas là à l'origine quand le collectif s'est formé. Je l'ai rejoint après. Et en fait, c'est au moment où on s'est constitué en association. Donc moi, j'étais là, en fait, un peu avant que ça se constitue en association. Et c'est quelque chose sur... c'est une chose sur laquelle on a pas mal travaillé, puisque, en fait, au moment de se constituer en association, il fallait choisir si on adoptait ou pas un mode un peu pyramidal, quoi, avec une présidente, une trésorière et une secrétaire et le reste. Et c'est à ce moment-là qu'on a décidé d'adopter un bureau horizontal qui pouvait compter jusqu'à 12 membres. Et en fait, l'idée, c'est de laisser la place à chacun chacune. Après, forcément, les personnes... Enfin, ça veut pas dire que c'est anarchique, on va dire. En fait, il y a forcément des personnes qui ont plus ou moins le lead en fonction des sujets et en fonction aussi de leur investissement, puisque une personne qui va être là plus régulièrement va être en meilleure maîtrise des sujets. Mais en fait, ce fonctionnement horizontal, même s'il est en fait toujours en construction et qu'on le questionne toujours pour pouvoir l'affiner et laisser la place à tout le monde, et ça évite aussi en fait d'être surchargé, en fait de répartir un peu plus les tâches pour éviter qu'une présidente se retrouve à tout faire, etc. Puisque mine de rien, en fait, il y a beaucoup de choses à faire, puisqu'on propose beaucoup d'événements qu'on est investi. Enfin bref, on est prise dans plein de choses à faire. Et donc l'idée, ouais, c'est de laisser sa place à tout le monde et de laisser aussi des personnes même qui ne seraient pas élues au bureau pouvoir gérer un certain nombre de choses.
Mais c'est ça, tu me disais aussi, et tu viens de le répéter, qu'en fait, une personne qui a envie de s'engager dans un projet, elle peut le faire même si elle n'a pas forcément toutes les compétences pour le faire, et forcément, elle se spécialisera dans le projet qui l'intéresse le plus, qui la concerne peut-être le plus, mais en soi, on peut vraiment participer à tout.
Oui, oui, absolument. Puis en fonction du temps qu'on a à y mettre et en fonction aussi de nos compétences, y a pas mal de diversité dans les métiers ou les compétences de chacune. Donc l'idée, c'est aussi de valoriser ça pour les personnes qui ont envie de mettre à profit leur expérience ou leurs connaissances. Après, l'idée d'avoir aussi une organisation plus ou moins horizontale, c'est une façon de mettre en œuvre un peu en fait l'idée de sororité et de en fait de pas retomber dans un schéma je sais pas avec un chef ou un truc comme ça qui serait en fait un modèle un peu reprendrait un modèle patriarcal et donc là on le détourne en ne l'utilisant simplement pas mais en se constituant quand même en association puisqu'en fait on s'est rendu compte au tout début que c'était pas toujours compréhensible pour nos interlocuteurs, qui avaient parfois besoin, même ne serait-ce que pour des demandes de subvention ou des choses comme ça. Il faut nommer une présidente. Enfin voilà, et on s'est un peu heurté à des choses comme ça, mais on a résisté.
Et toi alors, en ce moment, tu travailles sur quel projet ?
Là, très très immédiatement, demain soir, on fait un ciné-débat au Goethe. Donc c'est à 18h30, j'en profite pour faire un peu de publicité, et c'est sur le film Nico de Hélène Gehring, qui est un film qui date de 2021 il me semble, qui est très bien, qui est assez court, et donc on anime une séance débat après la diffusion du film qui sera diffusée en VO, sous-titré français. Donc ça, c'est pour l'actualité hyper brûlante, on va dire. Et puis sinon, le collectif, là, on travaille sur un festival qui aura lieu début mars. Donc qui est en lien avec la compagnie La Muette qui, en fait, depuis plusieurs années, proposait le festival Vive autour du 8 mars et qui passe en biennale. Et donc nous, on va occuper l'année entre deux festivals Vive. Donc on l'a appelé notre festival Entre deux Vive. Qui aura lieu du 5 au 9 mars et qui est constitué d'une multitude d'événements. Donc tout le programme est disponible sur notre site internet.
C'est collectif féministe nancy.fr.
Je pense que c'est je suis féministe.nancy.
Ok, je crois. Ça sera sur Instagram de toute façon.
Oui, en fait, si on met féministe Nancy, je crois que c'est un des premiers qui apparaît. Donc voilà, toute la programmation a été diffusée. Là, il y a des ciné-débats, il y a des concerts, il y a un bingo féministe, il y a un happening pour la manif avec l'idée de rassembler le plus de choristes possible pour lancer la manif avec des chants. Il y a une rencontre avec Marie Daucher, qui est une photographe qui s'est intéressée à la question des amours queer et qui a fait un très beau livre là-dessus et qui vient nous faire une conférence. Il y a des visites au musée du Beaux-Arts, il y a plein de choses à voir et à faire.
Justement, c'est fou que le collectif soit aussi jeune et que vous arriviez déjà à avoir une telle diversité d'activités, j'ai envie de dire. Malheureusement, c'est déjà la fin de l'interview. Oui. Merci Alice d'avoir accepté de venir au studio.
Merci à toi.
Et à dans tes semaines sur RCN.